Une interpellation qui tourne au fiasco. Le commandant Charcot se lance alors dans une enquête dangereuse et éprouvante, en dehors de tout cadre légal. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille et à vous confronter au pire de la nature humaine. La faille de Franck Tillier est disponible aux éditions Pocket.
Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, le combat de Marie-Rose. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Alexis Delafontaine. Rédactrice en chef, Isabelle Clairac. Bonne écoute.
Blanzy, 28 décembre 1996. Il a gelé à Pierrefendre toute la nuit. Et le givre couvre encore la petite bourgade de Saône-et-Loire. Dans le lotissement ouvrier qui s'est construit à la sortie du bourg, une découverte bouleverse la famille Blétry.
Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
Myriam est descendue, donc Myriam c'est ma deuxième fille, et elle m'a dit Christelle n'est pas dans son lit. J'ai été tout de suite très angoissée et très inquiète.
La veille au soir, Christelle, l'aînée des trois enfants âgés de 20 ans, devait passer la soirée chez des amis dans le centre de Blanzy. Marie-Rose les appelle aussitôt.
Séverine Creuset, amie de Christelle Blétry.
C'est sa maman qui est venue nous voir directement à l'appartement. Elle est venue nous voir, elle nous dit « Bah voilà, Christelle n'est pas rentrée de la nuit, est-ce que vous savez où elle est ?» quoi. Elle était très inquiète pour sa fille, quoi. Savoir où elle était passée, quoi.
Les amis m'ont dit que Christelle était partie aux environs de minuit et qu'ils ne l'avaient pas revue. J'appelle le commissariat de Montceau-les-Mines et quelqu'un vraiment pas sympathique en disant qu'elle était majeure et vaccinée. On m'envoie promener, voilà.
Mais Marie-Rose en est sûre. Sa fille l'aurait prévenue si elle avait découché. Elle file donc au commissariat de Montceau-les-Mines pour insister. Pas pressée de la recevoir, les policiers la font patienter un bon moment dans le hall d'accueil. C'est là que des bribes d'informations lui parviennent.
On entendait dans les radios jeune fille dans le fossé. Moi, j'entendais, mais je voulais pas croire qu'on parlait de Christelle. Non, c'est pas possible, quoi. Mais Christelle va rentrer.
Pendant que la maman se ronge les sangs au commissariat, des policiers s'activent déjà dans un chemin isolé à l'écart de Blanzy, au lieu-dit de l'Étendocle. C'est le facteur du village qui a donné l'alerte dans la matinée, quand il a découvert le corps d'une jeune femme.
Commandant Alain Bourdin, de la police judiciaire de Dijon.
Sur elle, on trouve son sac contenant des papiers d'identité, ce qui permet de confirmer l'identité de Christelle Blétry.
La victime est habillée et gît dans l'herbe, face contre terre.
Ce qui a été impressionnant, c'est quand le collègue l'a retournée. Et à la première vision, on voit qu'elle a été tuée à coups de couteau ou tout au moins avec un objet tranchant.
Commissaire Marc Schwendener, police judiciaire de Dijon.
Dès le départ, on se rend compte qu'on est face à un cas tout à fait quelque chose qui est hors norme.
La tâche s'annonce compliquée. La première ferme est à 500 mètres, le coin est désert. Et le froid polaire n'aide pas les policiers.
C'est assez lunaire, parce qu'il y a beaucoup de givre, il y a eu beaucoup de givre, il y a gelé pendant la nuit. Donc les champs de chaque côté sont blancs.
Sur le sol gelé, pas de traces de pas, ni de pneus. et l'arme du crime reste introuvable.
On retrouve quelques restes d'un repas de fast-food dont on ne sait pas s'ils sont là depuis la veille ou depuis plusieurs jours. Et c'est quasiment les seuls objets, j'allais dire, extérieurs à la victime que l'on retrouve.
Le corps de Christelle est transporté à la morgue de l'hôpital de Montceau-les-Mines pour autopsie. L'hôpital où un policier vient d'envoyer Marie-Rose Blétry sans qu'elle-même ne sache pourquoi.
J'ai une grosse colère, quoi, parce que je ne comprends pas. Depuis ce matin, ma fille a disparu. Personne ne nous dit rien. Personne ne sait rien. Et on me dirige à un endroit. Non, enfin, voilà.
À force d'insister, Marie-Rose est enfin reçue par un médecin, pas plus loquace. Il lui demande ce qu'elle sait. La maman bafouille.
J'ai compris que ma fille était morte, je pense. Mais de quoi, de comment, non, je ne savais pas. Le médecin légiste me dit, vous avez tout compris. Et voilà. Et il a dit à l'infirmière, emmenez-la dans le box, donnez-lui un médicament. Voilà. C'était fini.
Le crime, les 123 coups de couteau sur sa fille, Marie-Rose Blétry les apprendra le lendemain, en lisant le journal.
Mais pourquoi cet acharnement, enfin, non, mais moi je veux la voir, je veux voir, c'est pas possible. Christelle va revenir, Christelle n'a pas été tuée, c'est pas possible. Donc ma seule détermination à ce moment-là, c'est je veux la voir, je veux voir Christelle.
Dominique, l'autopsie qui a été pratiquée sur le corps de Christelle montre que le tueur s'est acharné.
Oui, absolument. Le légiste va relever 123 plaies sur le corps de Christelle et va finalement s'arrêter. Il va arrêter de les compter. On a rarement vu un tel acharnement dans un dossier judiciaire. Si on considère que le tueur frappe toutes les deux secondes, il s'est acharné sur Christelle pendant 4 minutes. Et le légiste note des plaies de défense. Il y a une quinzaine de plaies de défense sur les bras et sur les mains de Christelle. Ce qui signifie qu'elle a essayé de se protéger et qu'elle était encore consciente au moment de son agression.
Le tueur, il s'est servi de quelle arme ?
Alors, le légiste pense à une arme blanche, piquante, coupante, peut-être coupante d'ailleurs sur les deux tranchants, une lame de 7 cm de longueur, 3 cm de largeur, un couteau pliant, peut-être un opinel ou un laguiole.
C'est un meurtre à caractère sexuel ?
Non. Le légiste dit clairement non, il ne note aucune trace d'agression sexuelle ou de viol sur le corps de Christelle.
Et à partir de cet examen, est-ce qu'un scénario commence à se dessiner ?
C'est assez rare qu'un légiste s'autorise un scénario, mais lui va le faire. Selon lui, il est possible que Christelle se soit trouvée dans une voiture à la place passager et qu'elle ait été agressée par quelqu'un qui était à la place conducteur, ce qui expliquerait la concentration des plaies sur la partie gauche de son corps. Deuxième élément, le sang s'est déposé vers le bas du corps et ça laisse penser pour le légiste à une position assise de Christelle au moment de l'agression.
Et les indices qui ont été prélevés sur la scène de crime, qu'est-ce que ça donne ?
Ça donne rien, ça donne absolument rien. À l'époque, on n'a pas de téléphonie, rien d'autre. Alors ce que vont faire maintenant les enquêteurs, c'est essayer de tirer le fil de la vie de Christelle.
Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
C'était quelqu'un de très généreux, très, très serviable, très gentil, mais d'une gentillesse incroyable. Christelle aimait beaucoup Céline Dion, Jean-Jacques Goldman. Alors Jean-Jacques Goldman, on n'entendait que lui. Avec Céline Dion, c'était... moi j'aimais bien aussi. Donc c'était en boucle.
Christelle voulait devenir puéricultrice. Elle était interne dans un lycée à une cinquantaine de kilomètres de Blanzy. Elle rentrait chez ses parents pour les week-ends et les vacances.
Séverine Creuset, amie de Christelle Blétry.
Comme tous les jeunes, elle faisait sa vie le week-end, elle sortait, elle venait nous voir, essayait d'avoir sa liberté, quoi.
Christelle a passé sa dernière soirée avec quatre copains rue Joseph Lambert, dans le bas du village.
C'était une soirée bon enfant, on s'amusait, on rigolait, on passait un bon moment entre copains, quoi. Christelle était joyeuse, il n'y avait pas de soucis de ce côté-là, quoi.
Vers minuit et quart, Christelle et deux copains ont décidé de rentrer chez eux. Elle a bavardé un moment avec l'un d'eux au pied de l'immeuble, puis elle a pris le chemin du retour, seule, à pied. Un petit trajet d'à peine 1,5 km, qu'elle fait normalement en 20 minutes. Elle a d'abord remonté la rue centrale de Blanzy. Des témoins l'ont aperçue, notamment une serveuse de café.
Ma sœur, elle était au bar, donc elle a vu Christelle, et comme elle la connaissait un peu, elle est sortie lui dire bonjour. Et après, Christelle a continué sa route, quoi.
Un peu plus haut, Christelle devait tourner à droite avant d'atteindre la maison de ses parents.
Commandant Alain Bourdin, police judiciaire de Dijon.
La petite rue du Puy-Trois est une petite ruelle très mal éclairée. Très mal éclairée.
Mais personne n'a vu Christelle sur ce dernier bout de chemin.
Commissaire Marc Schwendener de la police judiciaire de Dijon.
On a des gens qui nous parlent d'un chien qui aboie, de bruit de pas, de cris, d'une voiture. On parle d'une Fiat Panda qui était stationnée. Donc effectivement, un certain nombre de témoignages, mais qui sont tous trop partiels, trop incomplets pour qu'on puisse même faire un lien formel avec ce qui est arrivé à Christelle Blétry.
Christelle ne faisait pas du stop. Christelle ne serait jamais montée avec un inconnu, ça c'est certain, parce que c'est vrai qu'on en parlait beaucoup à la maison. Par contre, elle était serviable, voilà. Donc elle aurait pu se faire piéger.
Dominique, tout se passe dans un mouchoir de poche.
Oui, Rachid, ce soir du 27 décembre 1996, Christelle passe donc la soirée chez ses amis, rue Joseph Lambert. Elle a un peu plus d'un kilomètre à parcourir pour rentrer chez ses parents. On perd sa trace devant ce bar où elle discute avec la serveuse. Elle aurait dû, en principe, prendre ensuite à droite la rue du Puy-Trois pour arriver rue Pasteur. Elle tournait à gauche, elle était chez ses parents. Et on découvre son corps le lendemain à 2 km 700 de Blanzy, chemin de l'étang d'Ocle.
Rien de plus sur l'examen de la soirée?
Non, rien de plus. Alors, les enquêteurs vont s'intéresser aux petits secrets de cette jeune femme de 20 ans. Et ils vont découvrir que, peu de temps avant sa mort, des événements troublants lui sont arrivés.
Depuis quelques semaines, Christelle paraissait inquiète, renfermée.
Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
Juste avant son assassinat, elle ne sortait plus. Est-ce que parce que justement elle avait peur ou voilà. Moi j'essayais de lui poser des questions, de savoir, et elle ne me disait rien, quoi.
Commissaire Marc Schwendener, police judiciaire de Dijon.
On nous a effectivement dit qu'elle était plus soucieuse, qu'elle avait le sentiment d'être suivie même.
Des collègues de stage racontent une histoire bizarre. Survenue fin novembre à la maison de quartier de Blanzy, où elle travaillait auprès de jeunes enfants.
À plusieurs reprises, elles ont été plusieurs à voir quelqu'un par la fenêtre, et il semblerait qu'il y avait un rôdeur à ce moment-là à la maison de quartier.
Mais aucun signalement précis n'a pu être fourni sur ces individus. Clairement, ça a pu participer au sentiment d'insécurité de Christelle Blétry.
C'est qui, ce rôdeur de la maison de quartier? Le tueur? Et puis, il y a aussi cette lettre que Christelle a écrite à sa meilleure amie, 10 jours avant le meurtre.
Elle parle d'un prénommé Christophe, qu'elle a rencontré dans une boîte de nuit. Avec lequel elle a entretenu une relation des plus brèves au mois de décembre.
Ce Christophe, Christelle l'appelle Titi. Et ce qu'elle raconte dans sa lettre est assez inquiétant. Fin novembre, il aurait emmené Christelle et un autre ami au bord du lac de Torcy, près de Blanzy.
Commandant Alain Bourdin, de la police judiciaire de Dijon.
Il lui a demandé de fumer du shit, voire de vendre du shit, et d'avoir un rapport sexuel à trois, ce qu'elle a refusé.
Et cet individu aurait sorti un couteau et qui lui aurait posé sur la gorge en la menaçant de l'égorger.
Quand j'apprends ça et dès que j'apprends les détails, ça, je veux dire, Christelle a été assassinée, c'est forcément lui l'auteur. Hein.
On se dit, on est sur le bon chemin.
Le Christophe en question est rapidement repéré et arrêté chez ses parents.
C'est un profil, je dirais, un peu de petit délinquant. Il a 28 ans, il est sans emploi, il revend un peu de résine de cannabis. Enfin voilà, on est sur ce profil-là.
Christophe le jure, il n'a jamais menacé Christelle. Il ne comprend pas ce qu'il fait en garde à vue. Et le soir du meurtre, il était bien occupé.
Il a passé la soirée dans une chambre d'hôtel avec des copains. Et que dans cette chambre, où à un moment donné, il se retrouvait jusqu'à 11. Donc ça devait être une bonne ambiance. Ils ont bu et fumé du hashish jusqu'à vers 2 heures du matin environ, heure à laquelle il est allé dans une boîte de nuit qui était située à quelques centaines de mètres.
Cette discothèque est située à 10 km de la scène de crime, soit une demi-heure aller-retour en voiture. Christophe a-t-il pu s'échapper de la soirée pour aller tuer Christelle ?
Il n'avait pas de voiture à cette époque et il n'est jamais resté seul. Donc il a toujours été en présence d'autres personnes qui ont confirmé qu'il était à l'hôtel puis à la boîte de nuit.
On a pu établir que sa tenue vestimentaire n'a pas changé au cours de la nuit. Et que quand on l'a saisie, elle n'a pas été lavée, elle n'a pas... Or, si il était l'auteur des faits, je pense qu'il aurait été couvert de sang.
La police se détourne donc de Christophe pour se concentrer sur d'autres pistes. Car en Saône-et-Loire, le meurtre a fait grand bruit. On ne parle même que de ça dans ce village de 6000 habitants. Du coup, les corbeaux du coin ne se privent pas pour donner du grain à moudre aux enquêteurs et à Marie-Rose.
Chaque fois que j'avais une lettre, j'allais chercher des gants avant de la prendre parce que j'ai compris le truc après. Donc je prenais des précautions pour que justement la police puisse avoir des empreintes, enfin voilà.
C'est qu'on a fait des vérifications sur des enseignants, sur un gendarme, sur un pompier volontaire, sur... Enfin, tout ce qui arrivait faisait l'objet de vérifications.
Les semaines, les mois et bientôt les années passent. Des dizaines de suspects sont placés en garde à vue, puis relâchés. Des milliers de pages de procès-verbaux sont rédigées, sans résultat.
Mais c'est très difficile et puis c'est insupportable. Moi, je veux l'assassin de ma fille, je veux qu'il soit arrêté et je veux l'assassin, quoi. Je veux pas un innocent.
Dans son combat, Marie-Rose Blétry n'est pas seule. Elle a très vite réussi à fédérer de nombreux soutiens.
Oui, très rapidement, dès janvier 1997, aussitôt à la mort de Christelle, des habitants de Blanzy, des amis, vont venir la rejoindre parce qu'ils sont d'abord indignés par la façon dont on l'a traitée au commissariat de police de Montceau-les-Mines et à l'hôpital de Montceau-les-Mines. Et tous ensemble, ils vont créer avec elle l'association Christelle. Très rapidement, première réunion publique, deux mamans de jeunes filles assassinées vont se présenter. Marie Pichon et Betty Soltysiak. Et puis, au fur et à mesure du temps et des réunions, d'autres familles qui ont vécu le même malheur vont rejoindre l'association.
Celles que la presse appellera plus tard les disparues de la CIS. Elles sont combien, Dominique ?
Elles sont 10. Elles ont entre 13 et 23 ans. Elles ont toutes disparu dans ce secteur le long de l'autoroute A6, un rayon d'une centaine de kilomètres. Ici, entre Chalon-sur-Saône, Monceau-les-Mines, Mâcon, ça fait un triangle que la presse va appeler le triangle de la peur.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré au combat de Marie-Rose. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.